Je vais pas vous faire un album en deux jours.
Mais si, mais si, mais si.
En fait, c'était un disque au début que je voulais faire sur le voyage dans le temps, en mode fantastique, bon dans le futur, retour dans le passé, retour dans le futur, bon dans le passé, et puis comme ça faire des oscillations un peu science-fictionnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que ma manière à moi de parler du voyage dans le temps, c'était de parler du présent et de s'agripper au maintenant. Il y a des morceaux comme ça qui parlent de ça dans l'album et je sais pas d'où ça vient. Franchement, cet album, il est hyper jeune et en vrai, je sais pas trop ce qu'il raconte encore. Et c'est assez bizarre d'ailleurs de balancer comme ça un truc qui est inconnu.
La dernière ligne droite, je reste à l'heure d'été.
Alors bonjour, je m'appelle Flavien Berger et je viens d'éternuer. C'est ce que je fais en ce moment là maintenant dans la vie. Je suis post-éternuement.
Je remets mon manteau en peau de crocodile et je te.
J'ai pas beaucoup de recul sur ce disque ni sur ce qu'il dit. Moi je sais pourquoi je dis les choses, mais je sais pas ce que ça dit aux autres gens, c'est ça ce que je veux dire. C'est ce que ça dit aux auditeurs plus qu'aux autres gens. Et le temps qui passe, c'est pas une angoisse, c'est pas un kiff non plus, c'est juste contre-temps, ça veut dire se lever dans le temps, tu vois, s'agripper, se câliner, quoi. Et il y a une volonté comme ça d'essayer de kiffer kiffer ce qui se passe, quoi, et pas le laisser passer. C'est un album un peu d'espoir, en fait, d'espoir sur que les choses se passent au bon moment, dans le bon ordre. Ouais, voilà, être en retard dans sa vie. Ne pas être en retard dans sa vie. Bah ouais, je pense qu'on peut être en retard dans le présent, ouais. Tu vas passer à côté de choses, en fait. Ne pas se rendre compte, courir après, courir comme dans Deadline, courir après quelque chose, et puis en fait c'est le crash. La montre, elle reste bloquée à l'heure d'été jusqu'à l'éternité, quoi.
Pas le temps d'y penser. La dernière ligne droite, je reste à l'heure d'été. Je remets mon manteau en peau de crocodile.
Bah, j'ai pas vraiment changé de manière. J'ai pas changé de processus entre les deux albums, j'ai juste fait évoluer le processus un petit peu. Parce que j'ai eu plus de temps pour faire ce disque. Enfin, mon premier album, je l'avais fait en un mois. Et c'était des maquettes qui existaient depuis très longtemps. Donc j'ai réalisé l'album en un mois, alors que là j'avais pas de maquette qui existait depuis tout très longtemps, j'ai commencé à zéro, mais j'ai fait ça pendant un an et demi. Donc en fait c'est le même processus de travail, mais après les choses viennent pas du même endroit, donc en même temps il y avait quelque chose de changé en effet. Et puis concernant le chant et le texte, ben là je pense que j'avais plus confiance en mes paroles, parce que je les avais peut-être plus travaillés, je savais peut-être plus aussi ce que je voulais raconter, même si ce que je voulais raconter n'était pas précis. De fait, la voix est un peu plus en avant qu'avant, parce que les mots sont plus importants. Je crois que les mots ont plus de sens, en tout cas pour moi, et sont moins une image. En fait, avant, je parlais d'images, je donnais des images à voir dans mes premiers maxi, comme dans mon premier album. Je pense que je décrivais souvent des paysages, que ce soit des paysages réels ou mentaux, ou fantastiques, ou fantasmés. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu exotique, dans lequel je me retrouve plus forcément. Non pas que je renie ces textes et ces trucs-là, mais c'est juste que là, j'ai envie de parler d'autres choses. Et donc des choses peut-être plus internes, plus subtiles, subtiles dans le sens invisible, quoi. C'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Bah, c'est tous les éléments qui changent ça. Je suis pas la même personne. Je vis pas les mêmes choses et j'ai traversé des choses différentes. Et même si je parle pas de moi dans ce disque, c'est pas un disque autobiographique, bah voilà, il y a forcément des sensibilités, des choses qu'on note, des choses qu'on met sur le côté, qui font partie d'expérience, quoi. Donc le mot, c'est une quête infinie. Je courirai toujours après les mots, et j'en découvrirai toujours. Et c'est inépuisable, en tout cas, je pense, l'attrait pour le mot et la manière dont j'ai de les collecter pour en faire des collections et après peut-être les assembler ensemble. Ben en fait, c'est comme une chambre mais sans lit. Je dors pas dans cette pièce, mais ça s'apparente à quelque chose, une mansarde, quoi. Et comment ça se passe ? Ben, c'est un rendez-vous régulier, c'est comme quelqu'un qui va dans son atelier, quoi. Je suis pas très studio pro, quoi. Le truc où on arrive le matin, et puis un ingé son, et puis le temps est compté, et puis on a 2 semaines devant soi, et puis c'est un peu stressant, il y a des machines qu'on connaît pas. Là, j'aime bien avoir les clés. Donc en fait, en effet, j'écris. Je compose et je réalise. Donc ça veut dire que tout est un peu imbriqué. Toutes ces étapes sont imbriquées les unes dans les autres. La composition aide le texte, mais le texte aide aussi la manière qu'on a d'écrire la musique qui va avec, les harmonies, les mélodies. Et la réalisation permet de décider de comment on va raconter toutes ces choses-là. Donc le ton, quoi. Comme un réalisateur de film, en fait, il y a des scènes, il y a des textes, mais lui, quel angle il va choisir, quelle couleur il va choisir, voilà. Donc ces trois trucs-là, en fait, sont hyper imbriqués parce que c'est des manières de m'exprimer qui sont différentes, mais tout aussi vitales les unes que les autres. J'ai pas appris la musique, quoi. J'ai appris tout seul avec mes outils à moi. Donc en fait, j'ai vraiment pendant très longtemps fait de la musique tout seul, sans que vraiment personne ne l'écoute, quoi. C'était pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai appris. Et en fait, après, je suis rentré à l'ENSI, qui est une école à Paris de création industrielle, donc de design. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Quentin Cool, DJ Cool, qui aujourd'hui a un label qui s'appelle John Cool Records. Et ensemble, avec d'autres membres, on a créé le collectif Scene. Et à ce moment-là, avec le collectif Scene, on faisait des installs déjà, des concerts. On a fait une pochette d'un groupe qui s'appelle Kill for Total Peace, qui est chez Pan European Recording. De fait, après, on a fait quelques scénos pour ce groupe, et ça m'a fait rencontrer ce label. Et j'avais jamais fait écouter ma musique à un label avant. Et d'ailleurs, j'étais pas vraiment très intéressé par ça. Et j'ai filé ma musique à ce label, à Arthur Péchaud, le patron du label. Et de fil en aiguille, en fait, on a décidé de sortir des disques. Et après, voilà, j'ai travaillé avec ce label, et j'ai continué avec le collectif Scene, et j'ai continué à faire de la musique. Mais en vrai, quand j'ai commencé à m'émanciper dans la musique, c'est quand j'ai rencontré, par exemple, des amis qui étaient en école d'art, qui faisaient des films, et qui me demandaient de faire la musique de leurs films. Parce que c'est le premier retour que j'ai eu où je me suis senti musicien, en fait. C'est quand des gens m'ont dit « Mais toi, qui fais de la musique ?» Est-ce que tu veux pas faire de la musique pour moi ? Et donc en fait, c'est voilà, le partage, encore la collaboration, ça a commencé à sourdre et à exister d'une manière un peu plus ancrée dans le réel quand j'ai commencé à le partager avec les gens. Oui, c'est Robin Lachenal qui a réalisé le clip de Brutalisme, qui avait déjà réalisé le clip de La Fête Noire. Et avec Juliette Gelly, qui est un autre membre du collectif Fine, ils ont réalisé un clip pour Saint Donatien, qui est un interlude dans mon premier album. Et ça aussi, c'est une émergence du collectif Scene. Là, par exemple, je travaille avec un autre membre qui s'appelle Tristan Gaston Vallée et qui vient de finir un site internet surprise qu'on va sortir autour du thème de mon album. Mais c'est un site internet, c'est son interprétation du disque à partir d'archives que je lui ai données, archives sonores et visuelles. Et voilà, c'est une zone internet et c'est aussi une émergence du collectif Scene. J'ai commencé à rencontrer réellement des musiciens quand j'ai sorti mon premier album, à peu près, quoi. Avant, j'avais pas de potes musiciens, même dans mon enfance ou mon adolescence, j'avais pas de copains qui faisaient de la musique. Puis j'ai sorti des maxi, donc j'ai rencontré mon label, donc forcément d'autres musiciens de mon label, mais avec la sortie de mon premier album et la tournée et tout ça, ben, j'ai été amené à rencontrer d'autres artistes et de fait à faire des rencontres et de ces rencontres sont nées des inspirations et des volontés de continuer à partager. Moi, si je fais de la musique, c'est pour partager. C'est d'abord quelque chose qui me construit et qui m'aide à m'exprimer, quoi, qui m'aide à donner un peu de sens à la vie. Mais c'est aussi pour collaborer, partager avec les autres gens, que ce soit pour des clips, pour des images, ou pour des sites internet, ou pour même la musique en soi. Et donc, en fait, ces deux chanteuses, je les ai rencontrées de manière différente. Bonnie Vanna, je la connaissais depuis un peu longtemps parce qu'on vivait à Paris. Et que quand j'ai découvert qu'elle faisait de la musique, j'ai trop aimé parce que ça me parlait. Et Julia Lanoë, c'est la chanteuse de Mansfield Tia et de Sexy Sushi aussi. Moi, j'avais tourné avec Mansfield Tia. Et c'est une personne hyper bienveillante qui m'intriguait et qui disait des trucs hyper gentils et qui m'a donné confiance. Et donc quand j'ai fait ces chansons, respectivement Contretemps et À reculons, bah, je les ai entendues chanter en fantôme, quoi, en contre-forme, en contre-voix. Et donc je les ai appelées, je leur ai demandé si elles voulaient chanter sur mon disque. Et on a écrit les textes ensemble. Je suis pas contre. Après, faut que ça soit naturel, faut que ça vienne de... J'ai à la fois pas d'idées, à la fois plein d'idées. Je pense qu'il faut... C'est pas mal de se rencontrer par la musique, genre, hey, salut, on se connaît pas, est-ce que tu veux venir faire de la musique avec moi? Ça, c'est pas mal, parce que ça permet de rencontrer des gens. Mais comme c'est quand même très personnel de faire un morceau, ça donne quelque chose au monde, parfois c'est plus sain ou plus... réconfortant, où il y a plus de sens de rencontrer quelqu'un et après de faire de la musique avec lui. Je sais pas si tout le monde pense pas comme ça, je pense, mais moi dans mon cas c'est vraiment pour aussi passer du bon temps et échanger et même m'amuser avec cette personne quand je travaille.
J'ai beau me dire que c'est temporaire, à chaque fois c'est l'enfer. Quand t'es pas là, je fais vraiment tout à l'envers. Quand t'es pas là, je me taire. J'ai envie de sauter toutes les heures qui nous séparent et je m'enferme. J'entends ta voix dans l'appartement. Tu sais quand tu chantes à contre-temps.
T'en fais pas quand je m'en vais. T'en fais pas, non, t'en fais pas trop. T'en fais pas quand je m'en vais. T'en fais pas, tu verras, ça ira. Oh.
J'avoue, j'ai peur qu'elle ait peur. Aujourd'hui c'est l'horreur, elle est partie, je souriais à contre-cœur.
Bah pourquoi? Parce que déjà moi ça m'ennuierait. Enfin je dirais dans une répétition constante ça peut être cool, mais moi ça m'ennuie. Et je pense que le public le ressent quand il regarde quelque chose qui est rodé. Moi mon spectacle c'est pas un truc de zénith avec tu vois plein de light, plein de trucs où de toute façon ce qui est donné à voir est dingue. Mon spectacle c'est juste moi sur scène avec des éclairages. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité qu'il faut respecter. Et je pense que c'est ça ce qui est intéressant, et quelque part je pense que des gens viennent voir aussi ça en concert, ceux qui connaissent en tout cas, ils viennent voir dans quel état je suis à ce moment-là, quoi, en tant que performeur. Et puis aussi, encore une fois, parce que ça vient de moi, c'est-à-dire que moi quand je vois un concert, j'aime bien me dire « Waouh, ce qui se passe là, ça se passe qu'aujourd'hui. Je l'ai vu ce truc-là. J'étais là ce jour-là où ils ont fait ça, où il a fait ça. » Et c'est ce dont les gens se rappellent, c'est cette fragilité parfois inter-morceau ou au sein d'un morceau. Ce moment sans filet, ce moment où il y a un risque qui est pris avec l'accord de tout le monde. Tu vois, il y a une entente commune qui se dit « Ok, on va aller là-bas ». Parce qu'en vrai, un concert, c'est deux énergies, quoi. C'est ce qu'il y a sur scène et ce qu'il y a dans le public. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et du coup, l'un alimente l'autre. Et donc, la surprise alimente l'engouement qui alimente l'engouement. Et voilà. Et parfois, j'y arrive mieux que d'autres. Parfois, les impros sont un peu plus maladroites. Parfois les rimes tombent bien. Parfois, non. Parfois, c'est au bon moment. Parfois, ça prend trop de place. Mais l'important, c'est d'essayer, je crois. Bah, le meilleur moyen... Déjà, moi, je suis pas trop... j'ai plus le trac. Donc ça, c'est trop cool. Il y a toujours une petite boule au ventre, surtout dans les concerts comme ça, où en fait, les gens viennent me voir. Parce que là, par exemple, ce soir, c'est dans le cadre du festival. Mais ça reste une date où disons, ben, les gens, ils ont acheté leur ticket pour venir me voir. Ils n'ont pas acheté leur ticket pour venir voir ta, et tu vois. Ce qui m'arrive plus souvent, j'avais plus l'habitude de jouer dans des festivals que de jouer en mon nom un peu partout. Donc jouer en son nom, c'est un peu plus stressant parce que les gens, ils savent ce qu'ils viennent voir. et on peut les surprendre, mais il y a un truc d'attente de genre, moi j'aime beaucoup ce morceau, j'aimerais bien qu'il le joue bien quand même, tu vois, parce que je l'aime beaucoup. Et donc tu te bats un peu contre ta propre musique dans ces cas-là. J'ai quand même plus trop le trac, j'ai souvent envie d'y aller, quoi. Avant, je descendais dans le public et on se mettait tous accroupis et puis après on sautait tous ensemble, et c'était ouais. Et c'est un truc qui est venu naturellement et j'ai eu peur de le répéter sur cette tournée parce que je le fais pas parce que j'avais peur que ce soit un tricks. Tu vois, ces trucs, ces astuces, ces recettes. La recette du allez allumer tous vos téléphones portables et tout le monde fait une nuée. Ce qui est très beau, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait halluciner. Je me souviens, dans un Zénith, il y avait un artiste qui avait fait ça et j'étais genre, j'ai presque ému aux larmes de que chaque personne soit une lumière et que ça crée une constellation. Mais après, quand tu vois 2, 3 fois, 4 fois, la magie est partie. C'est pour ça qu'il faut justement pas répéter les trucs bien et les garder pour que ça marque les esprits, pour qu'on s'en souvienne. Donc l'intimité, oui, en fait, c'est comme affronter quelque chose. Il faut le regarder dans les yeux. Donc le public, j'essaie de le regarder au maximum et de pas faire comme s'il n'était pas là. Et en fait, très vite, ça disons que ça brise la glace. En tout cas, les choses ne sont pas cristallisées, quoi. Bah, je me sens hyper bien parce que déjà, j'ai ma scéno pour la première fois, donc je suis content de ne pas arriver les mains vides, entre guillemets. Et puis voilà, qui dit une nouvelle tournée, dit plus de dates, donc une équipe un peu plus grande. On n'est pas genre en mode tour, bus, tout, enfin pas du tout, moi je fais quand même des petites salles, mais on est plus. Et c'est kiffant de se dire, encore une fois, le partage, voilà. C'est disons de dire, on est une petite troupe là, on s'en souviendra, et c'est cool, et il faut passer du bon temps, et donc j'aime trop ça. Et donc je suis content de démarrer cette tournée avec ces nouveaux morceaux et j'espère que c'est cool. Je fais plus attention de plus en plus à l'interprétation, donc à comment je chante, j'essaie de bien chanter en fait. Et donc je fais moins de turbulences, moins de tribulations au sein de mon setup, moins de bidouilles entre guillemets, pour un peu plus d'incarnation. Faut voir si le public suit là-dessus aussi, voir s'ils ont envie de me voir chanter pendant une heure, ou si on veut que je tourne des potards, tu vois.
La nuit tombe sur la crique et la roche pleure des couleurs. Dans le calme galactique, tu n'as plus de peur, plus de douleur. Les nuages sont électriques, reflétant ces tropiques sont là pour te sauver, darling, te sauver le cœur. Sauve ton cœur. Inversion climatique, cette nouvelle pesanteur.
En fait, Dream Machine, c'est un terme qui vient de William Burroughs et Brian Gysin pour parler d'un simple. Un simple générateur de trip. En fait, pour la faire courte, Gysin, à un moment, il était dans un voyage en car et il y avait le soleil qui rasait les arbres et ça faisait des clignotements, des flickers, des clignotements alors qu'il avait les yeux fermés, et ça lui a fait atteindre un état second. Donc là, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que on pouvait refaire ça artificiellement pour réveiller un petit peu, stimuler les ondes alpha, qui sont les ondes qui sont générées lorsqu'on dort. Donc Dream Machine, des machines à rêve. Rêver, éveiller un petit peu. Et c'est tout simplement un cylindre sur un tourne-disque. Au milieu du cylindre, il y a une lampe. Du coup, ça clignote et en fait, ça fait des flickers sur les yeux. Et donc cet objet-là, on s'est dit, c'est trop bien, c'est une machine à trip. Donc nous aussi, on veut faire des machines à trip. Et en fait, en faisant des courts-circuits avec des éléments technologiques comme des télés, comme des enceintes, on fait vibrer des choses. Et avec notre musique, en fait, on fait de la musique qui est donnée à regarder. Donc par exemple, lorsqu'on change le signal d'une télévision cathodique et qu'on envoie du son à la place de l'image, elle va générer des images, elle va générer des lignes. Ou si on fait un court-circuit avec cette télé cathodique, on peut fabriquer un oscilloscope. Et du coup, on peut regarder notre musique. C'est-à-dire qu'en fonction des... Par exemple, moi, quand je fais des notes de voix simples, ça fait des ronds. Et certains synthés peuvent faire des signes de l'infini, ou voilà, des choses comme ça. Ou des signes complètement abstraits. Et c'est donner à regarder notre musique et faire en fait une traduction de signal. Parce que ça peut aller dans un sens, mais ça peut aller dans l'autre. Parfois, l'image peut faire générer de la musique. Ouais, mais live, c'est différent, puisque c'est beaucoup plus chanté. C'est beaucoup moins dans la recherche. Donc mon travail avec le collectif Cine, pardon, d'une manière ou d'une autre, il m'influence, mais ma pratique que je fais tout seul, elle est très différente. Et moi, mes lives, c'est moi tout seul sur scène qui manipule mes machines pour essayer de retranscrire une émotion sur le moment. Et je me sers des morceaux, et je me sers de leur texte et de leur instrumentation, mais j'essaye de faire autre chose que le disque. Donc en fait, là, tu vas voir, j'ai une nouvelle scénographie. Et je suis toujours tout seul sur scène, mais je voulais vraiment qu'on n'ait pas l'impression que je sois tout seul, parce qu'en vrai, je ne suis pas tout seul. On est toujours plusieurs personnes dans la tête, et puis quand on est en live, il y a un peu un truc de channeling, tu vois, c'est Dao qui me disait ça, il me disait, toi en fait t'es un passeur entre des énergies d'inspiration au-dessus de toi, et t'es le filtre et tu le renvoies aux gens, et on sait pas d'où viennent les choses, mais il faut les accepter, il faut les renvoyer le mieux qu'on puisse, le mieux qu'on peut, et donc c'est un peu ça le live, c'est pour ça que tu vas voir, je suis accompagné de présence. Bah, le roi et l'oiseau, les ateliers de Grimaud, ils étaient pas loin de là où j'ai grandi, dans le 13e arrondissement. Et donc il y avait toujours cette aura un petit peu de « ça a été fait dans le coin ». Bon, et alors en fait, c'est un film assez mystérieux parce qu'il est très angoissant quand on le voit petit, on comprend pas ce qu'il a raconté vraiment, c'est même choquant, on peut avoir des mini-traumatismes d'angoisse, quoi. Et la musique, c'est Wojciech Kilar, c'est un super compositeur. Moi, je sais que longtemps, le thème du petit clown... Donc c'est un moment très triste où il y a une espèce de petit pantin, un petit clown désarticulé qui essaye d'entretenir, de divertir le roi qui lui baille et s'en fout complètement. Et ce thème-là, et les arrangements de ce thème-là m'ont hyper marqué. C'est du vibraphone, des glockenspiel, enfin des trucs très... un arrangement que j'avais jamais entendu, quoi, sur une valse très triste. Et je sais que, par exemple, ça m'a hyper marqué. Après, ouais, il y a ce truc... l'ordre du conte, en tout cas, l'histoire racontée et comment on sort du cadre pour raconter une histoire d'amour, quoi, tout simplement. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi fallait parler d'amour. C'est très naturel pour moi, j'ai l'impression que... Je sais pas, je me souviens d'adolescent me rendre compte du concept de la chanson d'amour, quoi. Le truc qui changera jamais, qui existera toujours. C'est un truc hyper bizarre, on a mis un mot dessus mais on sait pas ce que c'est. J'aime bien l'inconnu. Et je sais pas, bah, je pense que c'est lié à ma sensibilité et c'est qui je suis. Mais je pense que c'est un terrain qui me passionne, qui fait sens pour moi de creuser, tu vois, de... Et je pense que les chansons que j'aime bien, c'est des chansons d'amour aussi. Et puis c'est des chansons qu'on redécouvre aussi. Enfin, comme toutes les chansons, c'est un peu bête ce que je dis, mais... J'ai l'impression que selon les phases qu'on traverse dans la vie, une chanson résonne plus ou moins. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant il y a pas longtemps. Et c'est assez cool.